You're writing a postcard to a friend or a note to your boss. Did you know that how you write might say more than what you write? At least according to some handwriting experts.
It tells basically how the person thinks, how they feel, how they act.
Graphology is pseudoscientific bunkum.
Graphologists say that regardless of the language or when it was penned, the writing itself can reveal such personality traits as confidence, shyness, or even a tendency towards rage.
And the handwriting actually is not coming specifically from the hand, but it's everything that you've ever experienced in your life is stored in your brain, of course. And so when you go to write, all of those experiences kind of come out on the writing trail on the paper.
Bonjour, ici Nicolas Gauvry pour Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Écriture et personnalité.
Après l'analyse numérologique, je me suis dit, tiens, je vais m'intéresser à l'analyse graphologique cette fois-ci. J'ai repris mon petit tableau de la fois dernière. Et nous allons regarder d'un peu plus près ce H1N1. Prenons les lettres. Un H. Qu'est-ce qu'un H? Pour moi, les choses sont claires. Ce sont deux personnes unies entre elles.
Vous tombez sur une vieille lettre écrite par un de vos amis il y a longtemps, ou par un parent, ou par un frère, et vous reconnaissez aussitôt l'écriture de cette personne. Ça, c'est la preuve quand même que l'écriture, c'est éminemment personnel. Et il n'y a rien d'étonnant à ce que l'écriture ce soit personnelle, puisque on le constate tous les jours, n'est-ce pas, d'une part, et que d'autre part, l'écriture, ça se forme progressivement au cours de la vie. Et bien entendu, écrire, ça se fait avec son corps, son âme, son cerveau, et donc c'est influencé par des caractéristiques personnelles. Et probablement, du coup, pensent certains, ça doit être influencé également par la personnalité. Et si c'est influencé par la personnalité, on doit pouvoir retrouver, disent encore certains, dans les caractéristiques de l'écriture, toutes les caractéristiques de la personnalité. Voilà, ça c'est le pari que semblent faire les graphologues, c'est le projet des graphologues, essayer de retrouver la personnalité des individus à partir de leur écriture. La graphologie, on en entend parler un peu à différents endroits. On en entend parler, ou du moins on a tendance peut-être à mélanger des choses un peu différentes, mais on en entend parler à cause de cette histoire de personnalité, voire de compétences, puisque la graphologie s'est utilisée assez régulièrement dans les embauches par les cabinets de recrutement pour déterminer si telle ou telle personne sera consciencieuse, sérieuse, si elle sera obéissante, ou si au contraire elle se mettra tout le monde à dos et si elle fera mal son boulot. Mais la graphologie, ça sert aussi, du moins en première approximation, si on appelle ça de la graphologie, ça sert aussi à retrouver les corbeaux. Alors attention, si vous envoyez une lettre de calomnie, vous risquez bien de vous retrouver devant le tribunal qui pourra comparer grâce à ses experts l'écriture de la lettre que vous avez envoyée à votre écriture personnelle et savoir si oui ou non vous êtes le corbeau. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette question de savoir si le projet de la graphologie, c'est-à-dire l'étude du caractère ou de la personnalité à partir de l'écriture, est définitivement stupide ou si au contraire il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Mais bien sûr on ira un peu plus loin. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant peut-être, mais est-ce que vraiment la graphologie c'est scientifique? Et d'abord est-ce que ça pourrait être scientifique la graphologie? Est-ce qu'au départ un projet comme celui de faire le lien entre une écriture et la personnalité ça peut avoir un sens ou pas? Voilà une question qu'on a le droit de se poser. Il y a tout un ensemble de prérequis avant de pouvoir commencer la graphologie. Et alors je commence tout de suite par dire que ça, c'est pas si bête que ça comme idée, et que des gens très sérieux, des psychologues scientifiques, comme Binet par exemple, étaient très intéressés par les débuts de la graphologie. Ils ont ensuite été un peu déçus en général. Mais à sa naissance, la graphologie, a priori, s'annonçait comme une discipline scientifique. Mais voyons un peu les prérequis. Avant de pouvoir étudier grâce à l'écriture la personnalité des gens, évidemment, il faut pouvoir au minimum, et là on parle vraiment de la base, il faut au minimum pouvoir mesurer leur personnalité d'une part, de manière sérieuse, scientifique, au sens des sciences humaines évidemment, et puis d'autre part, il faut pouvoir étudier leur écriture, Donc, pouvoir mesurer la personnalité et l'écriture, c'est deux prérequis vraiment de base hein, pour pouvoir imaginer, développer ensuite une graphologie. Alors, est-ce que c'est complètement stupide ou pas ? On va commencer par discuter de ces deux questions. Je commence avec la personnalité parce que c'est peut-être des deux ce qui paraît le moins sérieux. Est-ce qu'on peut vraiment étudier scientifiquement la personnalité ? Ça paraît quand même un peu difficile. Hein. La personnalité, c'est flou, c'est vague, c'est subjectif, etc. Et d'abord, qu'est-ce que c'est la personnalité ? La personnalité, c'est une tendance stable, donc contrairement à l'humeur, hein, on peut être énervé, c'est une humeur, mais c'est pas de la personnalité, c'est-à-dire qu'on est énervé maintenant, mais pas demain. Une tendance stable à avoir certains comportements, certaines réactions, certaines conduites. Intuitivement, oui, la personnalité, ça existe bien. Il y a des gens dont vous vous méfiez parce que vous savez qu'ils sont un peu agressifs, qu'ils ont tendance à vous sauter dessus si vous dites quelque chose de travers qui leur plaît pas. Vous avez des gens très timides qui prendront jamais la parole en public, qui n'oseraient jamais parler dans le balado de la science et de la raison, par exemple. Mais vous savez aussi, bien entendu, que si on parle des gens timides, il y a plusieurs manières d'être timide. Hein, vous avez des gens, par exemple, qui sont absolument terrorisés dès que la conversation devient personnelle. Ils ont peur de se livrer, ils veulent pas. Mais les mêmes personnes peuvent avoir absolument aucun problème pour parler en public, faire des cours. Et par exemple, vous avez des professeurs d'université qui font régulièrement des cours magistraux devant 400 personnes et qui sont complètement tétanisés quand on leur pose des questions un peu intimes. Donc la personnalité ou les traits de personnalité comme la timidité, c'est assez complexe. Néanmoins, malgré tout ça, vous savez bien que certaines personnes sont plus timides que d'autres. Ça, c'est quelque chose qu'on ressent. Bon, alors évidemment, le fait qu'on ressente quelque chose, est-ce que c'est bien suffisant pour en faire de la science ? Ça, c'est vraiment pas sûr du tout. Et pour les douteurs professionnels, évidemment, il y a un gouffre entre avoir l'impression de quelque chose et avoir démontré quelque chose. Est-ce que des scientifiques se sont intéressés à la question ? La réponse est oui. Des psychologues scientifiques se sont intéressés à la question de la personnalité. Les tout premiers travaux étaient plutôt introspectifs ou de type que les psychologues nomment pudiquement d'observation clinique, c'est-à-dire en gros on voit des gens et puis on note ses impressions, pour le dire un peu brutalement. Néanmoins, c'est pas complètement stupide, parce qu'évidemment, quand on est psychologue professionnel, qu'on a l'habitude de voir des gens, de discuter avec eux, de voir leurs problèmes, d'étudier, d'observer leur comportement, même si on ne fait pas ça de manière scientifique, on a quand même une certaine compétence qui se développe, bien évidemment. Et donc, on est sans doute plus à même que n'importe qui d'autre plus à même de développer une théorie qui tienne la route. Mais évidemment, la science, ça ne s'arrête pas là. Ça, c'est une première impression. Ça peut faire des théories qu'il faut ensuite tester, valider, etc. Depuis à peu près 40 ans au moins, il y a tout un tas de recherches en psychologie scientifique, donc je vous le disais tout à l'heure, qui ont tenté de mesurer la personnalité. Alors si vous regardez un peu les travaux dans ce domaine, il y a des revues qui parlent que de ça. Il y a plusieurs revues scientifiques qui se concentrent sur le problème de la personnalité et de sa mesure. Et ce qu'on peut lire dans toutes ces revues, c'est un foisonnement de théories diverses et variées qui laissent penser que tout ça n'est guère sérieux. En réalité, c'est pas tout à fait le cas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de théories divergentes, que tout le monde n'est pas d'accord. Néanmoins, chacune des théories a quand même des avantages, des arguments, et si la science n'est pas encore tout à fait fixée, ça c'est certain, sur la bonne façon de mesurer la personnalité, il y a quand même eu des avancées certaines. Alors je vais seulement vous parler, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, dans les grandes lignes en tout cas, vous parler du modèle qui domine actuellement, qui s'appelle qui domine actuellement, c'est la théorie dite des Big Five, c'est-à-dire les 5 grands, et des Small 30, c'est-à-dire les 30 petits. Alors le principe, c'est de décomposer la personnalité en 5 grands traits de personnalité. On peut se souvenir des 5 grands traits de personnalité grâce au mot océan, qui est un sigle. Donc vous avez O pour ouverture, qui mesure si on est ouvert à la nouveauté, si on est curieux, si on va voir par exemple, si on apprécie l'art, la musique, la peinture, etc. Le C est là pour consciencieux, et donc ça mesure le caractère plus ou moins consciencieux. Ça dit si on fait bien son travail en général, évidemment. Si c'est un travail stupide, qu'on trouve stupide, on a beau être consciencieux, on ne le fait pas forcément bien. Vous avez un E pour extraversion, donc qui vous dit si vous aimez aller vers les autres, si vous êtes ouvert, etc. Bon, si je termine, puisque j'ai bien commencé mon histoire, là, vous avez un A pour agréabilité, qui dit donc si vous êtes sympathique, à l'écoute des autres, etc. Et puis la dernière lettre, le N pour névrosisme, qui mesure l'instabilité émotionnelle. Est-ce que vous vous énervez facilement? Est-ce que vous avez tendance à pleurer facilement? Si c'est le cas, vous aurez une note élevée de névrosisme. Alors je dis une note parce que, contrairement aux toutes premières tentatives de classement de la personnalité où on opposait, en fait, dans une espèce de dichotomie, des gens, par exemple, extravertis et introvertis, et on pouvait être soit l'un, soit l'autre, et puis c'est tout, on a trouvé quand même plus intelligent d'avoir sur ces différents traits, sur ces différents facteurs, des notes, en fait, donc qui sont plus ou moins grandes, donc ça, c'est sur un continuum. Hein. Et ça veut dire que vous pouvez être plus ou moins agréable, vous pouvez être plus ou moins nerveux, etc. Alors au départ, ces traits de personnalité n'ont pas été choisis au hasard, ils ont été choisis, ou trouvés plutôt, même s'il y a une part d'interprétation, grâce à des méthodes statistiques. Alors le principe est le suivant. On commence par récolter tout un ensemble de soit de traits de personnalité, mais très précis, soit de comportements habituels, comme par exemple aller souvent vers les autres, pleurer souvent, etc. Et puis, on fait avec ça un énorme questionnaire de plusieurs centaines de questions qu'on fait passer à tout un tas de gens. Et c'est là que commencent les statistiques. Parce qu'une fois qu'on a fait passer ce questionnaire à tout un tas de gens, on regarde si parmi toutes les questions, il y en a qui sont liées. Alors liées, ça veut dire que, par exemple, pour prendre un exemple tout à fait plausible, les gens qui ont beaucoup de mal à parler en public, et qui répondent oui à la question « je suis stressé à l'idée de parler en public », ont généralement aussi beaucoup de mal à parler, même en privé, dans tête à tête, de choses intimes. C'est pas toujours le cas, bien sûr. Vous avez des gens qui ont l'une des deux caractéristiques et pas l'autre. Mais en général, c'est lié. Alors si c'est lié, on fait des paquets comme ça de réponses qui sont liées, et puis on regarde si ça a du sens. Et si dans votre paquet, vous avez les deux choses dont j'ai parlé, et puis vous avez aussi des gens qui ont beaucoup de mal avec leur apparence, qui sont toujours stressés à l'idée de l'impression qu'ils vont faire, qui pensent toujours qu'on se moque d'eux, voilà, et ben on essaye de comprendre ce qu'il y a, et c'est là qu'il y a une part d'interprétation. On essaye de comprendre ce qu'il y a de commun dans tout ça, et puis on se dit, ça ressemble quand même à ce qu'on pourrait appeler de la timidité, ce qui ferait un trait de caractère timidité, ou un trait de personnalité timidité, qui en l'occurrence n'est pas dans les Big Five, hein, mais voilà, c'était un exemple. Quand on a vérifié tout ça, et qu'on a identifié les différents facteurs, on peut, en faisant la somme des réponses aux différentes questions, faire des notes, donc, attribuer des notes à chaque sujet, des notes donc pour chacune des chacun des cinq grands traits de caractère, par exemple, hein, de traits de personnalité, je devrais dire. Ensuite, on teste ça pour voir si c'est sérieux ou pas. Alors, si c'est de la personnalité, normalement, par exemple, pour voir si c'est sérieux, ça devrait être stable. Donc on regarde si c'est stable, et effectivement c'est stable. Donc si vous avez une note de névrosisme élevée aujourd'hui, probablement vous aurez également une note de névrosisme élevée dans un an, dans 6 mois. C'est relativement stable. On vérifie aussi que ça correspond à ce qu'on appelle habituellement, donc si c'est le névrosisme, ça doit mesurer si vous êtes nerveux ou pas, si ça correspond à ce que les gens appellent être nerveux. Et pour ça, on a plusieurs méthodes. On vérifie que ceux qui donnent une note élevée de névrosisme sont considérés par leurs proches comme plutôt nerveux. On vérifie aussi par les comportements. Donc on vous met dans des situations, ça c'est des études un peu plus rares, mais on vous met dans des situations où vous pourriez vous énerver, et puis on regarde si la propension à s'énerver correspond ou pas à ce qu'on a trouvé avec le questionnaire, parce que ça c'est fait avec des questionnaires. On étudie aussi des cas pathologiques, donc des gens qui ont des troubles psychologiques marqués et dont on sait qu'ils sont liés à une névrose, donc il doit avoir par exemple une note de névrosisme élevée, ou bien des phobies ou que sais-je, enfin voilà. Et toutes ces études qui suivent donc la construction du questionnaire permettent de vérifier que, oui, on a bien là un moyen de mesurer quelque chose qui ressemble, en tout cas au moins, à ce qu'on appelle habituellement la personnalité. Et donc c'est sérieux. C'est sérieux. Alors bien sûr, le Big Five, comme d'ailleurs les autres théories, puisqu'il y en a d'autres, sont sujets à différentes critiques. On peut mettre des bémols. Et alors notamment, pour reparler de simplement le seul modèle que j'ai évoqué ici, les Big Five, on leur reproche de ne pas prendre en compte toute la personnalité. C'est-à-dire, il y a des choses qui semblent complètement échapper au Big Five, et donc on dit peut-être il manque peut-être des facteurs là-dedans. On fait d'autres critiques, par exemple, le Big Five, quand on essaye de le tester dans différents pays, dans certains pays, ça ne fonctionne pas. Et il semblerait qu'en Hongrie, par exemple, il n'y ait pas d'agréabilité. Alors ça, c'est assez curieux. Et puis on se dit, si vraiment ça mesurait la personnalité, normalement, ça devrait être universel. Donc on peut mettre des bémols, évidemment, et on le fait. On peut critiquer et on peut espérer que dans les décennies à venir, il y aura des améliorations à tout ça. Néanmoins, c'est quand même quelque chose de sérieux qui a été fait scientifiquement, et malgré les incertitudes qu'il y a autour et le flou, ça mesure bien quelque chose qui a un rapport avec la personnalité. Et donc on peut considérer qu'on a une manière de mesurer la personnalité, au moins de manière approximative, même si c'est pas complet, même si ce serait peut-être mieux de faire autrement, il existe des manières de mesurer la personnalité. Du coup, voilà, notre première étape, c'était ça, est-ce qu'on peut mesurer la personnalité ? Et la réponse est affirmative, on peut mesurer la personnalité scientifiquement au sens des sciences humaines. Alors évidemment, je sens bien que des physiciens, des biologistes même pourront tiquer et penser que tout ça n'est guère sérieux, mais encore une fois, quand on prend la peine de se plonger dans le problème, de voir comment c'est vraiment fait sérieusement, c'est fait de manière scientifique, avec évidemment toutes les réserves qu'on peut toujours émettre et qui sont régulièrement émises. Maintenant, l'écriture, puisqu'on peut mesurer la personnalité, c'est très bien, mais si on veut la mettre en lien avec l'écriture, il faut évidemment aussi pouvoir mesurer l'écriture. Est-ce que ça, c'est possible ? Est-ce que si on donne un échantillon d'écriture à quelqu'un, ou si on fait écrire quelqu'un sur une tablette graphique, puisque maintenant on fait pas mal comme ça, est-ce qu'il y a des moyens d'identifier des critères qui vont permettre de différencier les écritures ? Et est-ce qu'on peut le faire sérieusement ? Ou est-ce que c'est fait même sérieusement ? Et là, la réponse est oui. Et c'est parce que la réponse est oui que j'insistais au départ sur la différence entre la graphologie, donc qui se donne pour but, au sens strict, la graphologie qui se donne pour but d'identifier la personnalité des gens en fonction de l'écriture, et les études qu'on dit parfois graphologiques, qui est utilisée par exemple dans les tribunaux, pour savoir si deux écritures correspondent à la même personne. Pour étudier l'écriture, ce qu'on fait, c'est identifier un certain nombre de critères. Alors il faut énormément de critères pour arriver à bien différencier les écritures. Comme genre de critères, vous avez par exemple la stabilité de la ligne de base, c'est-à-dire vous écrivez sur une feuille blanche, bon, ça peut être, et vous pouvez écrire peut-être bien horizontal, comme s'il y avait des lignes, alors qu'il n'y en a pas, ou alors vous pouvez faire des lignes montantes, ou descendantes, ou ondulantes. Vous pouvez aussi regarder, autre critère, la taille des marges. Spontanément, vous avez tendance soit à laisser des marges assez grandes, soit à faire des marges plutôt petites. On peut aussi regarder des choses sur des lettres particulières, comme la barre du T, est-ce qu'elle a tendance à être plutôt en haut, en bas, au milieu, montante, descendante, etc. Et quand on prend cet ensemble de critères en compte, on arrive à des taux de réussite assez bons, même presque excellents pour autant dire. Et par exemple, une équipe de recherche a montré qu'en prenant en compte 512 critères qu'on peut observer, et avec une bonne fiabilité interjuge, c'est-à-dire que si des personnes différentes cotent les différents critères, on obtient à peu près la même chose. En prenant en compte 512 critères, on arrive, dans 97% des cas, à distinguer deux écritures de personnes différentes. Si vous prenez deux personnes différentes, l'expert, entre guillemets, pourra déterminer que c'est deux personnes différentes dans 97% des cas. Et on peut sans doute faire beaucoup mieux encore, et il y a déjà des méthodes qui se développent, ou qui sont développées même depuis quelques années déjà, des méthodes informatiques, où on fait écrire les gens sur des tablettes graphiques, et ça a un super avantage, ça, c'est qu'on peut prendre en compte non seulement tous les critères qui se voient après sur l'écriture, mais aussi des critères qui ne se voient pas, comme la pression, la vitesse, etc. Résultat, oui, on peut aussi étudier scientifiquement, et ça se fait, mesurer scientifiquement l'écriture. Alors plutôt que graphologie, il faudrait peut-être appeler ça de la graphométrie. et c'est un mot qui est utilisé, et j'en profite pour citer tout de suite Michel Hutto, c'est un mot qui est utilisé par Michel Hutto dans un livre qui a donné le titre de cette émission, un livre donc qui s'appelle « Écriture et personnalité, approche critique de la graphologie », qui est paru chez Duno. C'est un livre que je ne saurais trop conseiller à toute personne qui s'intéresse à ces histoires de graphologie. Il est très fouillé. Michel Hutto a fait des recherches très poussées sur la graphologie. Il a été lire tout ce qu'il fallait lire. Et dans le livre, évidemment, vous trouverez beaucoup, beaucoup plus que ce que je peux vous raconter, qui ressemble un peu à un résumé de ce livre, hein, si on veut. Avec tout ça, avec la mesure de la personnalité et la mesure de l'écriture, on n'est encore pas tout à fait quand même arrivé jusqu'à la graphologie. Il reste encore un long chemin à parcourir. Et première chose, première question qu'on peut se poser, c'est d'accord, on peut étudier une écriture de manière scientifique, admettons qu'on peut aussi étudier la personnalité de manière scientifique, est-ce que l'écriture c'est quelque chose vraiment de personnel, c'est-à-dire est-ce que ça va pouvoir éventuellement être relié à une personne ou est-ce que l'écriture varie au cours du temps, d'une année sur l'autre ou d'un mois sur l'autre. Et là il faut, pour répondre à cette question, s'orienter vers les travaux peut-être des psychologues et des graphomètres, on pourrait dire, qui convergent pour montrer que effectivement l'écriture c'est vraiment quelque chose de personnel. Alors là je reviens un petit peu en arrière, non pas dans le temps mais dans l'âge, et aussi dans le temps en fait finalement, pour vous dire que peut-être les premiers travaux qui ont été faits en psychologie sur l'écriture, ou du moins les premiers travaux très célèbres aujourd'hui, sont ceux d'Ajuria Guerra, qui en 1971, donc lui c'est un psychologue du développement, hein, il étudie dans le cas de l'écriture, il étudie le développement de l'écriture chez les enfants. Et qu'est-ce qu'il trouve ? Il trouve qu'il y a trois phases en fait, trois périodes assez distinctes dans l'apprentissage de l'écriture. Une première période qu'il appelle la phase pré-calligraphique, entre 5 et 7 ans, où les enfants, on commence à peine à écrire hein, à cet âge-là, alors vous imaginez, c'est pas folichon, les enfants sont, si vous voulez vous représenter la scène, ont le nez collé à la feuille, ils tisent, agrippent leur stylo, parfois à pleine main, même si on leur apprend à faire autrement. Et puis, les exercices d'écriture, c'est en fait des exercices de copie, donc ils ont un truc écrit au-dessus, et puis ils essayent de leur faire la même chose en dessous. Et alors, ce qui caractérise cette première période, c'est qu'il n'y a pas de différence entre le dessin et l'écriture, c'est-à-dire que l'enfant reproduit l'écriture comme s'il s'agissait d'un dessin. Alors là, peut-être que vous vous demandez, mais est-ce que c'est pas toujours comme ça ? Eh ben non, c'est pas toujours comme ça. Et alors, pourquoi c'est pas toujours comme ça ? Par exemple, parce que quand vous tracez un cercle, que vous êtes un gamin, vous essayez de faire un rond, donc ça s'appelle pas encore un cercle, vous avez tendance, en général, surtout si vous êtes droitier, à le faire dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, c'est le sens normal. Mais quand vous tracez un O, pour des raisons liées à l'écriture, vous le tracez dans l'autre sens. Et donc, il faut changer de sens. Or, entre 5 et 7 ans, les enfants ont tendance à tracer les O exactement comme ils font des ronds, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire que si la forme de l'écriture correspond à la bonne forme, la trajectoire, en revanche, ne correspond pas à la bonne trajectoire. Pour arriver à la bonne trajectoire, il faut passer au stade ou à la période dite calligraphique par Ajuria Guerra, où là, on a la bonne trajectoire. Alors ça s'appelle calligraphique parce que les enfants, là, qui donc différencient le dessin de l'écriture dans ce qu'ils font, les enfants écrivent tous très bien, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils essayent tous de reproduire les lettres parfaites dessinées par leurs professeurs des écoles. Et si vous avez vu comment écrivent les professeurs des écoles, c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Je soupçonne d'ailleurs qu'ils passent tout le mois d'août à s'entraîner pour bien écrire à la rentrée, parce que vraiment, écrire comme ça, c'est pas normal. Rien à voir avec les médecins. Et donc pendant cette période, en fait, les écritures des différents enfants sont pas tellement, tellement personnelles. Hein. On trouve qu'ils écrivent à peu près tous pareil. Et ensuite, dans une troisième période, alors qui arrive là entre à partir de 9 ou 10 ans à peu près, ça commence, on est dans la phase que Ajuria Guerra a très judicieusement nommée post-calligraphique, pour qu'on s'en souvienne, où là, il se passe quelque chose d'assez désagréable d'un certain point de vue, c'est que la qualité de l'écriture se dégrade, et elle se dégrade vraiment beaucoup. Et pourquoi la qualité de l'écriture se dégrade ? Parce que les enfants veulent écrire plus vite. Et donc, c'est pour augmenter, enfin, du moins, c'est dans le modèle d'Ajuria-Gara, c'est ça, pour augmenter la vitesse, pour écrire plus vite, les enfants sacrifient la qualité de l'écriture. Donc, on écrit de plus en plus vite et de moins en moins bien. Mais la manière d'écrire moins bien et de simplifier les lettres, là, n'est pas la même pour tout le monde. Ce qui fait qu'autour de 11 ans, à peu près, 12 ans, bon, l'écriture devient personnelle. Et à la fin de l'adolescence en général, mais bon, ça peut encore varier ensuite, l'écriture devient à peu près stable. Et quand on est adulte, d'ailleurs vous avez pu le remarquer, si vous avez mon âge, quand on est adulte, l'écriture ne varie quasiment plus. Du moins l'écriture spontanée, parce que c'est pas très difficile d'imiter une écriture ou de fausser son écriture, de faire des lettres rondes alors que spontanément on ne ferait pas ça. Du moins pour quelques lignes, c'est pas difficile à faire. Mais l'écriture spontanée ne varie pas tellement. Si vous écrivez penché, vous écrirez probablement toujours penché. Et tout ça, ça nous amène à quoi ? Ça nous amène à admettre, on est bien obligé de l'admettre, hein, ça c'est des choses vraiment démontrées, que oui, l'écriture est personnelle. Aïe ! Alors là, je sens que certains d'entre vous sont peut-être inquiets et se demandent si je vais pas finir par leur dire que la graphologie c'est très sérieux. Bon, ce sera pas tout à fait ça la conclusion quand même. Ceux qui avaient peur de ça peuvent se rassurer. Néanmoins, c'est vrai que l'écriture, c'est personnel. Mais comme le dit très bien Michel Hutto, c'est pas parce que c'est personnel et qu'on peut retrouver la personne avec l'écriture que ça dit quoi que ce soit sur la personnalité. Hein, parce que l'ADN aussi, c'est personnel, et les empreintes digitales, et personne n'a jamais, à ma connaissance, retrouvé en étudiant les empreintes digitales la personnalité du cambrioleur. Et donc, pour poursuivre dans cette quête de la graphologie, pour arriver à savoir si oui ou non, finalement, on peut déterminer des caractéristiques personnelles comme la personnalité, le caractère, à partir de l'écriture d'une personne, il faut encore poursuivre ce chemin. Et l'étape suivante, sans doute, c'est de vérifier qu'il existe des caractéristiques personnelles qui sont visibles dans l'écriture. Est-ce que c'est le cas ou pas ?
Bon, alors déjà, les T sont très pointus. Les T pointus... les T pointus, personnalité affirmée, ambitieuse et agressive. Eh ben, c'est bon, ça. C'est tout du bon, ça. Alors, les M aussi, qui ressemblent à des W, ça m'est... Alors, tendance à l'alcoolisme, c'est pas bien. Personnalité sociopathe, lunatique, tendant à la bipolarité. J'ai pas tout pigé, mais ça m'a pas l'air du bon, ça. Les Q en forme de P. Alors, agressif, sanguinaire et sadomasochiste.
Eh bien, je vais vous surprendre. Malgré la petite note humoristique qu'on vient d'entendre, et qui, elle, n'est pas scientifique, la réponse à la question que j'ai posée juste avant, à savoir est-ce que oui ou non, il existe des caractéristiques personnelles que l'on peut voir dans l'écriture, cette réponse, c'est oui. Seulement, c'est assez limité. C'est-à-dire que, par exemple, on n'étudie pas la personnalité du tout, là, attention. Hein. Mais on étudie certaines choses comme, par exemple, la latéralité. Est-ce que c'est facile de reconnaître une écriture de gaucher ou de droitier ? Eh bien, là, non. Là, non. On pourrait penser que oui. D'ailleurs, beaucoup de gens s'imaginent que les gauchers écrivent moins bien que les droitiers, mais c'est pas le cas. Quand on fait des tests, on demande aux gens de déterminer si un texte a été écrit par un droitier ou un gaucher, ça fonctionne pas. Et même si les gens en question sont graphologues. Ah, ben alors qu'est-ce qui passe dans l'écriture ? Eh bien, par exemple, le genre. Les écritures de filles, on imagine qu'elles sont que les filles écrivent en général mieux que les garçons, et ben ça c'est vrai. Et les gens sont capables de reconnaître des écritures de filles et de garçons. Si vous prenez des gens sans aucune formation graphologique, vous leur demandez de reconnaître, à partir de l'écriture, si on a affaire à un garçon ou une fille, ils réussissent dans 75% des cas. Donc plus que ce qu'on pourrait imaginer. Si on répondait au hasard, ça ferait une fois sur deux. Alors ça, c'est vraiment bien. Hein. Et alors, on doit aussi demander à des graphologues professionnels, des gens qui passent du temps à travailler les écritures, à les étudier, à voir quel rapport ça peut avoir avec la personnalité, etc. Et ces gens-là réussissent un peu mieux, puisqu'ils font 78% de bonnes réponses. Est-ce que c'est vraiment épatant, ça, 78% de bonnes réponses par rapport aux 75% pour le tout venant ? Peut-être pas, hein, c'est pas une grosse victoire pour la graphologie, parce que ça veut dire que ça porte pas grand-chose, et on peut faire l'hypothèse d'ailleurs que, en fait, toute la théorie graphologique peut-être n'apporte absolument rien, et que si les graphologues font mieux, que les autres, c'est simplement parce qu'ils ont passé énormément de temps à regarder des écritures, mais tout ça est assez intuitif, hein, et que donc ils ont peut-être repéré, inconsciemment ou pas, des caractéristiques supplémentaires des écritures de filles et de garçons. Mais bon, ça, c'est pas de la personnalité, tout ça, hein. C'est bien sûr, bon, d'accord, on peut distinguer les garçons des filles, bon. Mais pas les gauchers des droitiers déjà, donc c'est pas terrible. Et alors quand on essaye de voir par des expérimentations, c'est pas compliqué à faire, hein. On demande à des gens de dire, y a deux lettres, voilà, et puis on leur demande lequel des deux est timide, par exemple. Et puis on a mesuré par ailleurs la personnalité des gens qui avaient écrit les lettres, et puis l'un est particulièrement timide et l'autre particulièrement peu timide. Est-ce que ça marche? Ben là, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Ou alors quand ça marche, c'est vraiment très très faible. Et ça marche pas avec les tout-venants, mais ça marche pas non plus avec les graphologues, qui sont persuadés d'y arriver très bien, mais quand on regarde les résultats, c'est plutôt décevant. Sauf dans quelques études. Mais alors c'est souvent, comme c'est souvent le cas avec des disciplines qui se voudraient scientifiques mais qui n'y arrivent pas très bien, quand on regarde un peu le détail des études, en général, il y a quand même des gros problèmes méthodologiques. Alors, une étude qui est énormément citée par les graphologues, si j'en crois Michel Hutto, qui est bien renseigné sur la question, montrait qu'on pouvait déterminer l'écriture de quelqu'un qui s'était vraiment suicidé. Mais l'expérience s'était passée comme ça. Ils avaient trouvé une lettre écrite par une personne qui s'était vraiment suicidée et avaient demandé à d'autres personnes de la recopier. Et les graphologues devaient retrouver parmi toutes ces lettres celle de la personne qui s'était suicidée. Et les graphologues réussissaient pas trop mal. Sauf que, évidemment, est-ce qu'ils ont déterminé la personnalité, est-ce qu'ils ont trouvé, grâce à l'écriture, la personne susceptible de se suicider, ou bien est-ce que, plus simplement, il y a des traces dans l'écriture qui permettent de faire distinction entre une écriture spontanée, qui vient de la pensée, et puis une écriture qui vient simplement d'un recopiage, peut-être qu'on coupe pas les mots pareils, que comme c'est pas naturel, c'est pas notre manière de dire, quand on recopie une lettre, peut-être qu'on fait pas tout à fait la même chose que si on l'avait écrite nous-mêmes. Alors du coup, bon, c'est pas très convaincant finalement, enfin ça montre qu'il y a des choses dans l'écriture, mais ça montre pas qu'il y a de la personnalité et du caractère dans l'écriture. Parfois ça marche quand même, mais alors pour que ça marche, il faut y aller fort. Et une expérience concluante a consisté à soumettre à des gens, et alors là encore ça marche aussi bien pour les graphologues que pour les autres, à soumettre différentes écritures, et il fallait retrouver dans l'écriture le paranoïaque. Et les graphologues prétendent que les paranoïaques écrivent plus grand que les autres, font des grosses lettres, et effectivement, c'est vrai, ils font des grosses lettres, et puis intuitivement les gens arrivent à retrouver du coup, surtout les graphologues qui réussissent un peu mieux que les autres encore une fois, arrivent à retrouver le paranoïaque dans les différentes écritures. Enfin, globalement, quand même, c'est relativement décevant. C'est-à-dire que bien que le principe de la graphologie soit a priori pas complètement stupide, hein, même pas du tout stupide, puisqu'on peut mesurer l'écriture et la personnalité, pourquoi pas essayer de voir s'il y a des liens, les résultats de la graphologie sont plutôt faibles. Et alors surtout, c'est là qu'il faut passer à autre chose, ce sont les bases de la graphologie, comment c'est fait. Parce que quand on teste le résultat, donc on s'aperçoit que ça fonctionne pas très bien, sauf dans quelques cas particuliers. Et alors vraiment, vous voyez, il faut opposer des gens normaux à des paranoïaques internés, hein, enfin vraiment, il faut y aller fort, quoi. Donc, puisque ça marche pas, on peut aller voir peut-être, donc, et c'est ce qu'ont fait plein de gens, du côté de la théorie. Comment est fabriquée la théorie graphologique ? Parce qu'on pourrait imaginer, si on est plein d'optimisme, que pour un objectif comme ça, la bonne méthode, et celle qui a dû être utilisée, c'est donc de prendre plein d'écritures, de les mesurer sur toutes sortes de critères, de relever la personnalité correspondante des scripteurs, si on veut utiliser un mot barbare, et puis de faire plein de statistiques pour voir si des fois il n'y aurait pas des corrélations entre certains critères de l'écriture et certains traits de personnalité. Eh bien, malheureusement, ça n'a pas du tout été fait comme ça. Et c'est parce que ça n'a pas du tout été fait comme ça que Alfred Binet, dont je vous parlais tout à l'heure, un psychologue très rigoureux, qui s'était d'abord intéressé à la graphologie, qui avait trouvé le thème passionnant et le but aussi passionnant, s'est finalement plus ou moins détaché de la graphologie en regrettant qu'il ne s'agisse pas finalement d'une discipline scientifique. Michel Hutto, pour revenir à notre livre fétiche d'aujourd'hui, a donc scruté les revues de graphologie, les livres de graphologie, pour voir un peu ce qui s'était passé. Il y a une association de graphologie en France, il y a une revue de graphologie qui se veut scientifique, et ce qu'on trouve dedans, c'est très très loin de la science. Alors il a quand même repéré à un certain moment dans l'histoire de la graphologie une petite tentative de retour à une espèce de méthode scientifique, enfin de retour, de découverte de l'esprit scientifique, on pourrait dire, pour la graphologie, mais finalement ça n'a pas pris. Et alors ce que note Michel Hutto, c'est que le principe de base, et en plus il est énoncé explicitement, c'est ça qui est très ennuyeux, de la graphologie, c'est avant tout de faire des analogies, de se fier à son intuition première, aux impressions qu'on a en lisant une écriture. Et c'est vrai que quand vous regardez une écriture, vous pouvez avoir une impression, vous avez des écritures nerveuses. Si je vous dis une écriture nerveuse, vous voyez ce que c'est. Et ben, pourtant, une écriture nerveuse, a priori, on ne sait pas ce que c'est. Ça pourrait bien être rond, mais vous l'imaginez probablement plutôt pointu, plutôt dense. Vous imaginez quelqu'un qui écrit vite. Voilà, ça c'est, ce serait une écriture nerveuse. Et ben, c'est sûr, ces impressions qui relèvent beaucoup plus de l'analogie que de l'analyse scientifique, que les graphologues se basent pour faire leurs analyses de personnalité. Et c'est ça qui est très ennuyeux.
En fait, on se comporte inconsciemment dans la page comme on se comporte dans la vie. Vous avez des personnes qui prennent toute la place, d'autres qui se font toutes petites, et dans le graphisme, on va retrouver la même chose. Les grosses écritures sont en général la marque de personnes qui veulent être reconnues, qui cherchent de toute manière à ce qu'on tienne compte d'elles, et qui sont quand même plutôt extraverties, donc tournées vers le monde. Et les écritures qui sont très petites, très concentrées, sont en général la marque de personnalités plus intériorisées, ou qui donnent plus d'importance à l'intellect, à la cérébralité, qui sont plus dans le domaine de la pensée.
Voilà, vous venez d'entendre une graphologue expliquer comment ça fonctionne, et je crois que là, à peu près tout est dit. Vous voyez que tout est basé sur de l'analogie et de l'intuition. Alors, si on veut faire un espèce de résumé de tout ça, qui serait aussi un résumé du magnifique livre de Michel Hutto, ça commence à ressembler vraiment à de la publicité, mais bon, c'est pas grave. Si on veut résumer un peu tout ça, voilà ce qu'on peut dire. On peut dire que, contrairement peut-être à d'autres pseudosciences, si on veut dire que c'est une pseudoscience, la graphologie avait au départ un projet qui pouvait tout à fait être traité et se poser une question à laquelle on pouvait tout à fait répondre par une méthode scientifique. Donc la graphologie, ça aurait pu être scientifique, ça aurait dû même être scientifique, puisque vraiment tout était prêt pour que ça soit une discipline scientifique. Et puis finalement, ça s'est pas produit, et ça ne s'est pas produit essentiellement pour une raison méthodologique, c'est que les graphologues ont refusé de se lancer dans cette aventure scientifique pour privilégier une approche plus analogique, intuitive, peut-être on pourrait dire philosophique si on veut être gentil. Et la deuxième raison pour laquelle c'est pas scientifique, et disons une raison par contre-coup qui explique sans doute pourquoi les graphologues n'ont pas voulu faire une discipline scientifique, c'est que ça ne marche pas. Et la conclusion des études scientifiques, puisqu'il y en a qui ont été faites, pour essayer de lier l'écriture et des caractéristiques personnelles, la conclusion synthétique de toutes ces études, c'est que certes, l'écriture est très personnelle, certes, quelques caractéristiques personnelles peuvent transparaître dans l'écriture, comme le fait d'être paranoïaque, ou d'être une fille ou un garçon, mais pour le reste, on n'a pas le moindre indice indiquant que dans un cadre normal, pour des gens qui n'ont pas de pathologie spéciale, l'écriture laisse paraître quoi que ce soit. Alors on peut sans doute repérer par l'écriture des gens, oui ça a été fait aussi, donc on peut certainement par l'écriture reconnaître des paranoïaques ou des gens qui présentent un retard mental important. Mais dans une population de gens normaux qui diffèrent simplement parce qu'ils sont plus ou moins sympathiques, plus ou moins névrosés, nerveux, plus ou moins agréables, etc., la graphologie, ça fonctionne absolument pas. Et donc il y a eu tout un tas d'études qui concluent qu'on n'a pas le moindre indice que ça marche un tant soit peu. Et alors si on parle de graphologie, encore dans le monde critique, c'est parce que malheureusement, bien que ça ne marche pas, bien qu'il y ait de nombreuses études qui montrent que ça n'a aucune validité, a priori, que même qui montre, oui, mais pas seulement a priori, qui montre que les graphologues sont incapables de distinguer des niveaux d'agréabilité, de nervosité, etc., normaux, malgré tout ça, la graphologie est encore utilisée dans les cabinets de recrutement, aujourd'hui même, et surtout en France, et dans quelques autres pays. Alors après, il y a d'énormes différences que je ne sais pas expliquer entre les pays. Je crois que dans les pays nordiques, c'est très peu utilisé. Mais en France, les études montrent que c'est encore pas mal utilisé. Pour en savoir plus sur toutes ces questions, je vous renvoie au livre de Michel Hutot, comme ça vous serez obligé de le regarder. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous salue bien bas, sceptiquement vôtre. Au revoir.